Donc on a un chiot maintenant sur la dernière paracha de Sefer Bereshit. On finit tout ce Sefer-là, ce livre. Et je voudrais m'arrêter aujourd'hui quelques minutes sur le dernier pasouk, qui a l'air peut-être anodin, mais je pense qu'il cache une certaine tragédie qu'on va essayer de découvrir ensemble. Le pasouk nous dit « Vayamot Yosef », donc c'est la mort de Yosef, un des derniers de l'ancienne génération. Vayamot Yosef ben Mea ve Esser Shanim, donc il avait 110 ans. Vayachantu oto vayasem ba'aron ben Mitzray. Donc Yosef est mort et on l'a vayachantu oto. On l'a embaumé et on l'a mis dans une certaine boîte, un cercueil en Égypte. Très bien. Moi je voudrais m'arrêter sur le terme vayachantu oto, on l'a embaumé. Alors évidemment, les commentaires, tout le monde s'acharne sur ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire embaumer? Comment c'est possible d'embaumer? A priori, c'est un acte interdit dans le judaïsme. On n'embaume pas un mort, on le laisse intact. Mais moi, ce qui m'a pris en vérité, c'est quoi qu'on en dise, dans les Mefarshim, dans les commentateurs, dans le Zohar, chacun essaye d'essayer d'expliquer comment on a pu, de quelle manière ça a été fait. Dans le meilleur des cas, ou dans les pires des cas, je ne sais pas comment on peut dire, c'est un acte égyptien. Pas conseillé par le judaïsme. On peut trouver certaines dérogations dans certains endroits, mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas juif. Et pourtant, la Torah nous dit que Yosef l'a fait. Pas seulement qu'il a fait pour lui, on peut dire qu'il était roi d'Égypte, peut-être qu'il n'avait pas le choix. Il l'a fait aussi pour son père, le pasouk nous dit qu'il l'a fait à son père. Vayetzav Yosef et Avadav, le pasouk nous dit que Yosef a donné l'ordre à ses serviteurs et au médecin, la chanot oto et aviv. Donc même Yaakov a reçu ce même traitement, et pourtant il n'était pas roi Yaakov. Et pourquoi c'est gênant? C'est gênant parce que la Torah va finir avec ça, et c'est ça que je vais m'arrêter. C'est-à-dire que Sefer Bereshit, tout ce livre de Bereshit, va finir avec cette information. Quoi qu'on dise, c'est pas de chez nous. Et si c'est pas de chez nous, on va pas finir tout Sefer Bereshit, un magnifique livre des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Shvatim, les tribus, etc. Et on dit une information comme si, je sais pas comment ressentir, c'est un goût très amer, très très amer. Et d'ailleurs, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que ça dérange pas grand monde. Ce qui dérange, et c'est presque ironique, ce qui dérange la Gemara elle-même et tous les commentateurs, c'est que comment on peut embaumer Yaakov puisqu'il n'est pas mort. Nos sages disent, Yaakov avinu l'omet, dans le traité de Tehanit, Yaakov n'est pas mort. Il y a des midrashim qui vont dans ce sens, que Yaakov s'est réveillé, a même parlé à des gens. Et donc, s'il n'est pas mort, comment on peut l'embaumer? Très belle question, vraiment. Et moi, ce qui me dérange, c'est comment on embaume, comment un juif peut embaumer, la Torah le passe comme ça, comme si c'est normal. Et on finit, et on a un klal chez nous, akol olech achar achitum, tout va d'après la fin, et c'est une fin très amère que j'ai du mal à avaler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière cette information qui est comme ça, qui finit ce livre tellement passionné, avec tellement d'histoires et tellement d'informations et tellement de limous. On apprend tellement de choses de nos avot. Comment on peut comprendre ce passouk-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ce passouk, à mon avis, tragique? Tragique, terrible, mais même terrible. Et on va essayer de finir quand même avec une touche un peu plus positive pour essayer d'avaler ce cachet amer. Et je pense que ça a quand même quelque chose à nous dire aussi, nous en 2025, surtout en 2025, qu'est-ce que ça peut nous dire ce dernier passouk? En réalité, en vérité, si on regarde cette descente, cette irida, cette descente de la famille de Yaakov, ses enfants, dont Yosef, en Égypte, on remarquera quelque chose qui est évident, c'est que Yaakov lui-même, quand il va descendre en Égypte, dans sa tête à lui, c'est pas pour rester. Il ne faut pas être un prophète. On le dit tous dans la Haggadah de Pessah, quand on est au Seder le soir. On dit comme ça, le passouk qui dit « Shelo yarad Yaakov avinu leishtakea bemitzrayim elalagur » Yaakov, quand il est descendu en Égypte, ce n'est pas pour habiter, c'est par contrainte de famine ou par d'autres contraintes. Et dans sa tête, il va et il part. Comme c'est écrit, « Ki ger iye zaracha » Il a reçu la promesse, son grand-père Abraham, il a reçu la promesse du bon Dieu. Ton peuple sera guerre en Égypte. Guerre, ça veut dire étranger. On est là-bas parce qu'on a besoin, mais on n'est pas là-bas pour y habiter. On n'est pas là-bas pour y rester. On n'est pas surtout là-bas pour s'assimiler, évidemment. Chez Nehemar, le passage de la Gada nous dit, va yomer yomro el paro, la gourba aretz banu. Ils le disent eux-mêmes à Paro quand ils rencontrent Paro les enfants. Cher Paro, nous sommes là, la gour, nous sommes étrangers. On vient, on s'installe à Goshen, on fait ce qu'on a à faire et on part. On n'est pas là. Qui enmir elatson, on a besoin de manger, on a faim. Et donc cette inquiétude-là de Yaakov, cette préoccupation de Yaakov, elle est majeure. Yaakov, il a accepté d'aller en Égypte, mais c'était vraiment par force et vraiment par nécessité, presque par contrainte. Chazal nous dit eux-mêmes qu'il est venu avec des chaînes de fer. Mais c'est ça qui préoccupait. Ad Kedekar, jusqu'à que Dieu lui-même doit rassurer Yaakov. Ne t'inquiète pas, mon cher Yaakov. Al tira mired amitzraïma, n'aie pas peur. Tu vas en Égypte, je t'accompagne. Anochi eredimach, vanochi alegamalo. Je viens avec toi et je vais te récupérer. Don't worry. Ça va bien se passer, comme disait l'autre. Et ça, hein, c'est une conception que vraiment je pense que Yaakov, pas seulement était inquiet pour lui, c'était le plus important pour sa famille, pour ses enfants bien sûr, pour ses petits-enfants, pour tout le monde. On va en Égypte, notre place elle est en Eretz Israël, nous sommes en Égypte par contrainte, par nécessité. Et c'est très important que ça reste dans la tête. Et là, il se passe quelque chose, je voudrais vous partager une pensée. Je pense que Yosef était vraiment l'élève de son père, puisqu'il a appris avec lui quand il était jeune, mais quelque chose, machehu ishtabesh, quelque chose a tourné, a mal tourné pour Yosef. Désolé, ce n'est pas une lecture qu'on a l'habitude, mais il faut dire les choses. Et je dis, encore une fois, j'essaye de mettre de côté un peu les midrashim et un peu les commentateurs en général qui tournent autour du texte, mais il se passe quelque chose d'anormal avec Yosef. Et si on lit la lecture qu'on lit d'habitude, énormément de questions se posent sur Yosef lui-même. Mais si on a un peu le courage de lire les textes comme ils sont, vous allez voir que pas mal de choses sont assez naturelles, parce que Yosef change. Le petit enfant rêveur qui rêvait d'un monde meilleur, il se passe quelque chose quand il arrive en Égypte. Il arrive en Égypte, il finit par devenir roi. Et qu'est-ce qui se passe la première chose? Paro va faire une chose incroyable, c'est important, il va changer son prénom. Alors, est-ce que le prénom fait une identité ou pas? Je ne rentre pas dans ce débat, mais il va changer son prénom. Il va lui donner un prénom égyptien. Il va l'appeler Tsofnat Paaner. C'est un nom que Paro lui-même donne, ce n'est pas anodin. Paro, il essaye d'assimiler ce gosse. Il essaye de le rendre égyptien. Il est égyptien compatible. Et surtout, s'il prend le poste qu'il devient, il doit changer son nom. Et Yosef accepte. Dorénavant, il s'appelle un nom égyptien, Tsofnat Paaner. Deuxième conséquence tragique, ça vient après le prénom, ou pas, mais ça vient après le prénom dans la Torah, c'est que Paro va devenir le chatran. Il va celui qui va trouver une femme à Yosef, il va dire « j'ai une bonne femme pour toi, une bonne égyptienne, de bonne famille, Potiphar, il a une fille incroyable, je pense à un bon chidour. » Et le pasouk va nous dire « Iten lo et osnat bat Potiphera kohen on leisha. » Donc la fille du prêtre, la fille de tout ce qui est pire en Égypte, sera celle qui va se marier avec celui qui est fraîchement nommé égyptien, à savoir Tsofnat Paaner / Yosef. Et ça, il faut comprendre ce qui se passe, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe et que ça change. On change de nom, on change de famille, il se passe des choses, c'est pas évident. Et si c'est juste une pensée que j'ai, la Torah, pratiquement tout de suite après, va nous confirmer cette tragédie dans le comportement de Yosef, puisque la Torah nous dit que Mazal Tov, il y aura deux enfants qui vont naître. Et là, comment vous dire, les prénoms que Yosef va donner à ses enfants, si ça, c'est pas de l'assimilation à s'arracher les cheveux, c'est parce que ça s'assimile. Et nos sages vont essayer, évidemment, de dire non. En fait, ils essayent de lire ça avec un autre ton. Mais lisons les choses telles qu'elles sont, avec calme. Qu'est-ce qui a marqué ici? Le pasouk nous dit, il a eu deux enfants. Un, il s'appelle Ménaché. Donc, c'est le premier-né. Donc, imaginez-vous, la Brit Mila, s'il y en a une. Le Moël demande à Yosef, comment tu appelles ton fils? Il dit, j'appelle mon fils celui que grâce à lui, j'ai oublié mon passé. Zéro. Mazal tov. Nashani Elohim et kol beitavi. Stop. Avec lui, je tourne une page. Mazal tov. Il n'y a pas marqué Nashani avec des larmes. Il y a marqué Nashani. C'est celui que enfin je suis intégré ici. J'ai des enfants en Égypte. C'est des Égyptiens. C'est pas rien. C'est plus des immigrés. Maintenant, c'est des Égyptiens de souche. Lui-même, il est né en Égypte. Et ensuite viendra un deuxième enfant, pour couronner le tout, il va s'appeler Ephraim, qui frani Elohim, c'est-à-dire, et j'ai eu le succès en Égypte, je me suis bien intégré. Donc c'est pratiquement un nom, pas pratiquement, c'est le nom qui désigne son intégration complète. Et donc son nom a changé. Sa femme est celle qu'elle est. Et les enfants sont des qui font l'apologie et la gloire de l'effacement du passé et de l'ancrer dans le présent égyptien. Ça y est! Le changement est fait, Nigmar. Et là, sa royauté, elle commence. Il faut bien écouter ce que je dis. Il y a une question terrible, tragique, que Ramban, Nachmanide, pose. Il y a la question que tout le monde se pose, mais qui commence chez Ramban, si je ne me trompe pas. Ribono shel Olam, cher Yosef, tu es roi. Qu'est-ce que tu fais la première semaine, premier jour, première heure, première minute quand tu deviens roi? Tu prends un stylo, tu prends une plume, tu prends un claf, tu écris une lettre à ton père. Papa, je suis vivant et je suis là. Tu n'as pas le temps. Tu prends un de tes 3 millions de serviteurs. Tu dis, écoutez, foncez tout de suite à Kenan. Dites, Od Yosef Fry. Yosef est là, Yosef est vivant. Bienvenue. Rabotai, il faudra attendre des années, 9 ans. 9 ans, il n'a pas écrit une fois à son père. Il n'a pas dit à son père qu'il existe. Il n'a pas dit à son père qu'il est vivant. Il n'a pas dit à son père qu'il va bien. Il ne donne aucun signe de vie pendant 9 ans. C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'au bout de 22 ans, il aura 22 ans de séparation avec son père. Il va se rappeler de son père. Parce que les frères vont venir. Pas de sa propre initiative. Mais ce n'est pas possible de comprendre une chose pareille. Allô, c'est ton frère, c'est ton père. Et là, Imken, seulement si on comprend ce que j'ai envie de dire, qu'il a fait un trait sur le passé. Il a fait un trait sur le passé. Mon père représente mes frères représentent tout ce que ça représente, tout ce balagan, tous ces orthodoxes. J'en veux plus. J'en veux plus. Bon, bah, les frères vont venir. Bon, vous voulez réconcilier ? On réconciliera. Mais vous voyez ce qui se passe ici, c'est quand même terrible ce qui se passe chez Yosef. D'ailleurs, je ne sais pas comment dire de manière le plus raffinée, cette fameuse rencontre entre Yaakov et Yosef, il n'y a qu'un côté qui pleure. Il n'y a qu'un côté qui est ému. Il n'y a qu'un côté qui prie. Ramban aussi fait remarquer. Yosef est froid. Il ne pleure même pas. Alors Ramban essaie d'expliquer, parce qu'un roi ne se plie pas à son père. Yosef est presque gêné. Indifférent. Je voulais pas ça. Presque gêné. Bon. Cède. Bravo, vous êtes là, rentrez, asseyez-vous. Prenez un café. On ne voit pas cette émotion énorme chez Yosef. A priori. C'est ce qui peut expliquer aussi, par exemple, que les frères ne reconnaissent pas Yosef. Bon, que c'est quand même bizarre que Yosef ne reconnaisse pas. Que les frères ne reconnaissent pas Yosef. Yosef ressemble de goutte d'eau à son père. Pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Il y a quelque chose chez Yosef qui a changé. C'est plus le même, c'est un égyptien. Il y a quelque chose, c'est une aura égyptienne. C'est un réflexe égyptien. C'est des expressions égyptiennes. C'est un regard égyptien. Je ne te reconnais pas, mon frère. Pourtant, on est la même famille. Même nos sages disent qu'ils ressemblaient de goutte d'eau. Mais quand c'est un égyptien, c'est un égyptien. Machou ne passe pas là-bas. Qu'est-ce qui se passe chez Yosef? Yosef, contrairement à son père, qui est dans une optique de lagour, c'est-à-dire être étranger, Yosef est dans une optique de la chevet, s'installer. Qui veut qu'il s'installe, qu'il s'assimile? Paro lui-même. Paro dit à Yosef, fin parachat de Vaïgash, « Oh, chevet avira, installe ton père ici, je voudrais qu'il soit un vrai, des vrais Égyptiens. Et tes frères. » Et c'est ce qu'il fait Yosef, c'est incroyable. Yosef, il envoie chercher son père à la fin. Et il dit à ses serviteurs, « Dites à mon père, quoi, Amar bincha Yosef, ton fils Yosef a dit quoi ?»« Reda elai, viens chez moi. »« Yashav ta be'eretz goshen. » Yosef donne l'ordre à son père, « Viens t'installer. »« Ve'yashav ta be'eretz goshen. » Ribono shel olam. Yosef a les mêmes expressions que par haut. Ça ne s'invente pas. Et donc, c'est grave ce qui se passe avec Yosef. Nahon, Yosef Hatzadik, tout ça, c'est vrai, et mettre la Amita. Mais on ne peut pas ignorer cette parenthèse terrible et tragique d'un Yosef qui passe d'une extrémité. Et Rabotai, j'ai encore 5-6 preuves. Je me fais vraiment violence de tout ce qu'a fait Yosef avec les taxes. Nos sages disent qu'il a vraiment voulu faire plus royaliste que le roi. Maman, Paro n'a rien demandé, il était tellement. Qu'est-ce qui se passe, Yosef? Il se passe qu'il est passé d'un statut de guerre à un statut de toshav. D'étranger à un vrai citoyen égyptien, assimilé. Terrible, mais c'est ce qu'on constate. Ça serait que ça, encore. Le seul problème, ça c'est la preuve de ce que j'avance ici, c'est qu'il a réussi à contaminer ses frères aussi. Il a réussi à contaminer ses frères. Le passouk nous dit sur les frères de Yosef, fin Vaïgash, si je ne me trompe pas, Vaïeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Toute la famille de Yaakov, les enfants, se sont installés à Goshen. Vaye Achazuba, je ne sais pas comment on dit en français, mais ils ont attrapé cette terre, ils se sont assimilés. Dit le Kliyakar. Mamash, les mots sont terribles, c'est tragique. Je veux dire, les mots du Kliyakar, si lui ne le dit pas, je ne peux pas le dire. dit le Kli Yakar, Kol Pasuk Ze Be'ashmat Bnei Israël Umedaber. Ce pasuk-là, c'est une lettre d'accusation terrible. Une accusation terrible sur tous les enfants d'Israël. Ki Akadosh Baruch Gazar Aleihem Ki Geriyeh Zaracha. C'est vraiment ce que je dis mot par mot. Dieu leur a dit, soyez des Gerim, soyez des étrangers. Ve'hema Bikshu Lihiyot Toshavim Be'makom Shenigzar Aleihem Gerut. Hachem Ishmor V'yatil, ce qui s'est passé ici. Hachem Ishmor V'yatil. Et tout ce que je vous dis ici en vérité, c'est pour vous dire que ce pasouk-là, qu'on finit par Achat Vaïri, que j'ai commencé le cours avec. Que Yosef finit et il sera embaumé comme le meilleur des Égyptiens. Et il donnera l'ordre aussi d'embaumer son père. C'est plus une question. C'est presque une fin tragique que Sefer Bereshit. Voilà ce qui se passe à une personne qui part en galoute, qu'en exil, il pense que c'est chez lui. Comme disait le Meshech Chochma, quand Berlin devient Jérusalem. Quand l'Égypte devient Jérusalem, voilà ce qui se passe. On finit Sefer Bereshit, Yosef est embaumé comme un Égyptien et son père aussi. C'est un passouk qu'il faut lire avec des larmes. La galoute commence dans la tête, dans le cerveau, dans la perception des choses. Si chez toi tu es en galoute, alors la galoute qui viendra le prochain livre chez Mot, c'est la conséquence de ce que Yosef a voulu devenir. C'est tragique. Mais ça, c'est ce qui a marqué dans le dernier passage de Sefer Bereshit. Alors, on ne va pas finir avec une touche tellement amère. Je voudrais ramener une Hara, quelques mots mamash pour finir, que j'ai vu dans l'Ikoutei Sirot, le livre du Rabbi de Lubavitch, dans Chelek Yutet, dans le livre 19. Et il dit quelque chose de magnifique. Je pense que ça peut être la cerise sur le gâteau pour essayer de finir ça. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas sauf pasouk. On finit cette Bereshit, mais ce n'est pas la fin. C'est quoi la preuve? Dit le Rabbi dans sa Sicha. Il dit comme ça. Dans Parashat Beshalach, c'est-à-dire dans Sefer Shemot, le Passouk nous racontera « Vayikach Moshe et Tatsmot Yosef ». Moshe va récupérer les ossements de Yosef pour les ramener en Israël. Dit le Rabbi dans la Torah, les mots n'ont pas de voyelles. Atsamot, ça veut dire des os. Et Atsamot, si on le lit sans voyelle, ça peut être Atsmut, qui veut dire l'essence même. Dit le rabbi, ça lui ressemble tellement. Vaikach Moshe et Tatsumut Yosef. C'est-à-dire que malgré que Yosef était un vrai assimilé de manière extérieure, le corps est embaumé, qu'est-ce qu'on peut faire de pire? Le Hatsumut, le fond, la Neshama, l'essence du juif, celui-là, il appartient en Eretz Israël. Jamais on peut rendre une âme, on ne peut pas assimiler une âme, on peut assimiler un corps. Et Chanita, c'est tellement le corps, l'embaumement, c'est vraiment le corps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fin de compte, Moshe Rabbeinu, le tzaddik, le leader, il est capable de dire à chacun d'entre nous qu'en réalité, au fond, chacun d'entre nous, il a un etzem, il a un mahout, il a un essence, si ça se dit comme ça, et cette essence-là, elle appartient où? Elle appartient en Eretz Israël. Donc on a une fin tragique, mais ce n'est pas la fin des fins. Parce qu'en fin de compte, on fait tous partie de Nefesh, Eloka, Mimal, une âme, celle-là, on ne peut pas l'assimiler jamais. Shabbat Shalom.